été avec Orange Money, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. Dans un instant, vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Vous connaissez le principe, s'il vous manque des clés pour décrypter les sujets que nous traitons à l'antenne, eh bien surtout, n'hésitez pas, appelez-nous, rejoignez-nous ici à Paris, 33 9 693 693 70. Et la rédaction, évidemment, se fera un plaisir de vous répondre. D'ailleurs, vous pouvez également nous contacter, nous envoyer vos questions via les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook de l'émission, la page officielle RFI. Appel sur l'actualité, sans oublier de nous indiquer un numéro de téléphone afin de vous avoir avec nous en direct sur l'antenne d'RFI. Et puis, dans 30 minutes, nous vous poserons une question. Comment évaluer les promesses des chefs d'État? C'est vrai qu'on entend dire parfois que les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. En tout cas, en Afrique de l'Ouest, de plus en plus de plateformes numériques voient le jour pour permettre justement aux citoyens de scruter la mise en œuvre des engagements pris par les chefs d'État pendant les campagnes électorales. Vous pouvez par exemple évaluer une à une les mesures promises, mais aussi vérifier en temps réel l'état d'avancement du programme électoral. Je suis par exemple sur la page consacrée au programme électoral du président guinéen. On voit par exemple fin de mandat dans 3 ans, 9 mois, 7 jours, 15 heures, 48 minutes et 22 secondes et ensuite l'ensemble de son programme. Alors je vous parlais à l'instant de la Guinée, c'est vrai que c'est la dernière initiative. Depuis peu, le président Alpha Condé fait l'objet d'une veille citoyenne, mais cet outil existe déjà par exemple au Sénégal avec le Makimètre pour surveiller l'action du président Macky Sall. Au Nigeria, c'est le Boirimètre. Au Bénin, c'est le Talonmètre. Alors que vous inspirent ces initiatives? Peut-elle finalement contribuer à renforcer la bonne gouvernance, à consolider la démocratie? Vous nous rejoignez 33 9 693 693 70. Mais d'abord donc vos questions, et on va commencer avec des questions après la condamnation la semaine dernière du Français Thomas Gallet par la justice marocaine. Bonjour Blaise.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Bamako au Mali, nous vous écoutons.
Oui, Juan, Thomas Gallet a été condamné par la justice marocaine à 4 ans d'emprisonnement pour financement d'entreprises terroristes. Sa défense a longtemps décrié un procès démarré des zones d'ombre. De quoi s'agit-il, Juan? Et à présent, quels sont les recours dont dispose Thomas Gallet?
Thomas Gallet, accusé d'avoir donné l'équivalent de 65 euros à une connaissance qui s'est retrouvée au cœur d'une affaire impliquant plusieurs personnes accusées d'avoir formé une cellule terroriste. Thomas Gallet a donc été accusé d'appartenance à une cellule terroriste. Bonjour Sarah Doublier.
Bonjour Juan.
Vous êtes la correspondante d'RFI au Maroc. Effectivement, la défense, mais aussi la mère de Thomas Gallet et de nombreuses ONG parlent d'un procès émaillé d'ombre. De quoi s'agit-il exactement?
Eh bien, ce sont en fait les conditions des dépositions de Thomas Gallet à la police lors de son arrestation qui posent aujourd'hui problème selon sa défense. Selon ses avocats, eh bien, ces procès-verbaux de police qui ont servi de base à la condamnation du Français ont été rédigés en arabe, une langue que Thomas dit ne pas comprendre, ne savoir ni lire ni écrire. Des dépositions donc qui ont été réalisées également sans la présence de traducteurs et qui donc ne correspondent absolument pas à ce qu'il dit avoir déclaré initialement. En effet, si cet ingénieur français qui résidait à Essaouira a reconnu avoir dépanné une connaissance à hauteur de 65 euros en trois fois à cette connaissance qui se trouvait aujourd'hui le principal accusé, eh bien, il nie en bloc les autres déclarations qui figurent dans les comptes rendus de ces dépositions faites à la police, à savoir un aveu d'allégeance à Daesh ou encore une supposée conversion à l'islam. Enfin, les multiples reports d'audience ont été très mal vécus par la défense et l'entourage de Thomas Gallet, des affaires de terrorisme plus récentes avec des chefs d'inculpation plus importants ont été traités plus rapidement que cette affaire-là. D'une manière générale, la défense estime qu'elle n'a pas été du tout entendue dans cette affaire et que ce procès a été à charge du début jusqu'à la fin, même si la peine prononcée en appel a été allégée de 2 ans.
Oui, puisqu'en première instance, Thomas Gallet avait écopé de 6 ans de prison. Je le disais tout à l'heure, plusieurs ONG de défense des droits humains soutiennent ce ressortissant français, à l'instar de Human Rights Watch, de la Fédération internationale international des droits de l'homme d'Amnesty International qui dénonce des méthodes douteuses. À noter tout de même, c'est important de le préciser, et chacun a ensuite tirera les conclusions qu'il voudra, mais lors du procès en appel, le procureur a affirmé que toute la procédure a été faite dans le respect de la loi. Désormais, de quel recours dispose Thomas Gallet ?
Eh bien, le premier recours possible est de se pourvoir en cassation. La défense disposait de 10 jours pour le faire. Cela impliquerait donc un nouveau procès dans un délai qui est très long au Maroc, qui peut aller jusqu'à 18 mois. L'avocat français de Thomas Gallet, Franck Berton, je vous rappelle, c'est l'ancien avocat de Florence Cassé, a assuré à RFI qu'une autre solution consistait également à demander un rapatriement de Thomas Gallet. La famille réfléchit donc à la meilleure stratégie à adopter pour limiter, bien sûr, son temps de détention en prison. Aujourd'hui, cela fait plus d'un an qu'il est emprisonné au Maroc.
Et les autorités françaises soutiennent Thomas Gallet ?
Alors c'est difficile à dire, les autorités françaises sont dans une position délicate et elles assurent qu'elles doivent rester neutres face à cette affaire. Il faut savoir que dans le cadre de la protection des Français à l'étranger, deux membres du consulat de France à Rabat ont assisté à toutes les audiences. Plusieurs visites également ont été réalisées pour s'assurer des conditions de détention de Thomas. Des conditions de détention qui, selon la mère de Thomas Gallet, ne sont pas paradisiaques. Absence de couverture pendant plusieurs jours, saleté de la prison. En tout cas, à l'annonce du verdict, le Quai d'Orsay a dit prendre note de cette condamnation et assurer continuer à suivre avec la plus grande attention le cas Gallet. Les autorités françaises se montrent attentives à cette affaire, mais elles sont aussi soucieuses de ne pas interférer dans la justice marocaine. Elle dit donc faire tout ce qui est en son pouvoir dans le respect de l'indépendance des tribunaux du royaume chérifien.
Et Blaise, on a répondu à vos questions.
Oui, Juan.
Bonne journée alors, merci de votre fidélité à Bamako et on remercie Sarah Doublier, la correspondante d'RFI au Maroc. 9h17 à Paris, vos questions, vous nous appelez 33 9 693 693 70. On va d'ailleurs continuer à parler du Maroc avec une question sur le Sahara occidental. Bonjour Séraphin.
Bonjour Juan.
Merci de nous écouter à Sarr. Sarr, c'est à 540 km au sud-est de N'Djamena, au Tchad. On vous écoute, quelles sont vos questions ?
Merci. L'émissaire de l'ONU au Sahara occidental a annoncé la semaine passée sa démission pour n'avoir pas réussi en 8 ans à réunir le Maroc et le Front Polisario autour d'une table de négociation. Alors, je voudrais savoir, est-ce qu'avec cette démission et la présence de M. Guterres à la tête de l'ONU, pourrait-on espérer une solution, en fait, une évolution dans la situation au Sahara occidental. Oui.
D'autant que ce différend dure depuis plus de 40 ans, depuis que le Maroc a pris le contrôle d'une grande partie de ce territoire au moment du départ de l'Espagne en 1975. Bonjour Khadija Mohsen-Finan.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes politologue, spécialiste du Maghreb. Alors effectivement, après 8 ans de médiation entre le Maroc et le Polisario, Christophe Horos a jeté l'éponge, il a présenté sa démission. C'est un signe, évidemment, un aveu d'échec pour l'ONU qui n'a pas réussi, comme le disait Séraphin à l'instant, à mettre autour d'une table les autorités marocaines et le Front Polisario. J'imagine que le départ de Christophe Horos est une bonne nouvelle pour le Maroc.
Oui, pour le Maroc, c'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, en 2012, il avait eu des problèmes avec le Maroc qui avait demandé carrément son renvoi. Mais il avait eu aussi l'appui de sa hiérarchie, c'est-à-dire que Ban Ki-moon l'avait conservé comme émissaire pour le Sahara occidental. Pour autant, je ne pense pas que l'obstacle numéro un était réellement Christopher Ross. Je pense que c'est une question de gestion de ce dossier par l'ONU et par Ban Ki-moon. Donc c'est une question de méthode. Il va falloir reprendre ce dossier en le traitant selon une autre méthode.
Alors justement, justement, le fait qu'un nouveau secrétaire général de l'ONU soit en fonction depuis le 1er janvier, est-ce que c'est une nouvelle page qui se tourne ? Est-ce qu'on peut s'attendre enfin à un règlement de ce conflit ?
Alors, on peut s'attendre à un règlement de ce conflit le nouveau secrétaire général des Nations Unies, qui a d'ailleurs donné des signes positifs, le gère différemment, oui, mais il ne faut pas oublier aussi que cette question du Sahara occidental, elle est venue se nicher dans le contentieux qui oppose Alger à Rabat. Donc nous avons là une superposition de deux questions, la question du conflit du Sahara occidental et la question du contentieux entre le Maroc et l'Algérie.
Mais vous pensez qu'Antonio Guterres, qui connaît bien ce dossier, va pouvoir convaincre le Maroc peut-être de faire des concessions ou en tout cas d'être moins exigeant que ces dernières années et ces dernières décennies ?
Il réussira si le Maroc est disposé à changer de méthode et à aller vers un dénouement de cette question et à ne pas imposer lui-même une solution par le biais d'une autonomie, par exemple. Il faut sortir de la politique du fait accompli.
Mmh. Séraphin, est-ce qu'on a répondu à votre question ?
Merci beaucoup, Juan. Et bien, merci à cette invité.
Oui, à Khadija Mohsen Finan, qui est politologue, spécialiste du Maghreb et qui est toujours disponible quand on la contacte pour répondre justement à des questions sur le dossier du Sahara occidental. Merci, Khadija Mohsen Finan. N'oubliez pas, dans 20 minutes maintenant, notre débat et cette question ce matin. Comment évaluer les promesses des chefs d'État ? Que deviennent les promesses électorales ? Des promesses, beaucoup de promesses pendant les campagnes. Et ensuite, une fois élus, les présidents, les chefs d'État, les respecte-t-elle ? Eh bien, on va en parler ensemble, d'autant qu'on assiste de plus en plus à une mobilisation de la société civile en Afrique de l'Ouest, notamment au Sénégal, au Nigeria, au Bénin, au Burkina Faso et désormais en Guinée, des membres de la société civile. Alors, parfois, ce sont des blogueurs, parfois des informaticiens, sinon, ce sont des ONG qui mettent en place des cellules de veille, des sites internet pour permettre aux citoyens de vérifier quasiment en temps réel l'évolution, l'avancement du programme électoral des présidents. On a envie de vous entendre, évidemment, puisqu'on peut penser que ces outils permettent de renforcer la bonne gouvernance. Alors, vous qui êtes sur place, dites-nous ce que vous en pensez. 33 9 693 693 70. Nous n'arrivons plus à contacter Saliou, qui est au Bénin. On compose son numéro et pour tout vous dire, la ligne n'aboutit pas. Saliou avait des questions pourtant intéressantes sur la réélection jeudi dernier de Donald Tusk, que vous l'avez évidemment suivi sur notre antenne, notamment avec l'un des correspondants des RFI qui était sur place au sommet européen jeudi dernier à Bruxelles. Bonjour Quentin Dickinson.
Bonjour Juan et bonjour Saliou, dont j'espère qu'il nous entend, s'il ne décroche pas son téléphone.
Non, c'est même pas qu'il ne décroche pas, c'est que le réseau n'aboutit pas, c'est-à-dire qu'on compose ce numéro et ça n'aboutit pas. En tout cas, il nous a appelé vendredi matin en entendant la réélection de Donald Tusk, réélu donc à la présidence du Conseil européen, alors que son pays, la Pologne, y était opposée. Et Saliou voulait comprendre comment expliquer cette réélection alors que la Pologne n'a pas voulu soutenir son ancien Premier ministre. C'est vrai que ça semble paradoxal tout de même.
Oui, paradoxal, mais vous savez, Juan, dans un monde où les usages éprouvés en matière de relations internationales, voire la plus élémentaire logique, voire la courtoisie tout simplement, semblent totalement abolis, eh bien tout est évidemment possible, y compris les initiatives diplomatiquement suicidaires. Et ce qui s'est passé jeudi dernier au sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne en est un exemple éloquent. Alors, de quoi s'agissait-il ? Eh bien, tout simplement de décider de l'identité de la personne qui présidera les sommets de ce genre au cours du prochain mandat de 2 ans et demi que prévoit le traité. Il n'y avait qu'un seul candidat, l'actuel président, Donald Tusk, qui aspirait à succéder à lui-même, soutenu par un large consensus et rejeté par personne. Enfin, rejeté par personne, jusqu'à ce que la Pologne avance au tout dernier moment la candidature concurrente d'un obscur eurodéputé polonais, le professeur Jacek Sariusz-Wolski. Varsovie comptait sur un vote positif de la part de ses alliés du groupe de Visegrad, en particulier des Hongrois et des Slovaques, ainsi que sur l'abstention des Britanniques. Or, rien de tout cela ne s'est matérialisé et M. Tusk a été reconduit pour un second et dernier mandat par 27 voix contre une. Première question, cette initiative polonaise avait-elle la moindre chance de réussir ? Réponse, non, car l'on imagine mal 28 chefs d'État et de gouvernement accepter d'être présidés par un quasi-inconnu, expulsé de son parti et de son groupe parlementaire dès l'annonce de sa candidature, et qui n'a jamais un jour de sa vie exercé des fonctions ne fût-ce que de secrétaire d'État. Ouais. Et puis, en ces temps troublés, on ne change pas de cheval au milieu du guet. Seconde question, Juan. Pourquoi le gouvernement polonais s'est-il lancé dans cette aventure ? Il ne pouvait se solder que par son immédiate humiliation et sa durable marginalisation. Réponse, parce que l'homme fort polonais du moment, Jarosław Kaczyński, voue une haine toute personnelle à son rival de toujours, Donald Tusk, et que tout est bon pour tenter de l'affaiblir, voire de le salir. Ce n'est pas un peu paradoxal, puisque s'il n'avait pas été réélu, M. Tusk serait rentré en Pologne pour y reprendre sa carrière politique nationale, ce dont on peut penser que cela n'aurait pas vraiment fait l'affaire de M. Kaczyński, mais voilà, on nous explique maintenant que c'était un coup destiné à montrer à quel point la Pologne n'hésite pas à affronter le monde entier et il paraît que l'électorat du PiS, le parti au pouvoir, est très réceptif à ce genre d'attitude. Je vous laisse juger si le jeu en valait vraiment la chandelle.
Effectivement, Quentin Dickinson, en tout cas ce qu'on aura retenu pour comprendre la position du gouvernement polonais, c'est que le chef du parti au pouvoir déteste Donald Tusk. Merci d'avoir été avec nous et on salue évidemment Saliou qui avait certainement, on l'espère, l'oreille collée au transistor pour expliquer vos explications. 9h26 à Paris, il nous reste encore 4 minutes, le temps de nous intéresser à la brouille diplomatique entre la Malaisie et la Corée du Nord. Kasumna, bonjour.
Oui, bonjour Juan.
Vous nous appelez du Cameroun, vous êtes dans la région de l'extrême nord, à Maroua, et vous avez donc des questions après l'assassinat du demi-frère de Kim Jong-un, c'était il y a un peu plus d'un mois et demi à l'aéroport de Kuala Lumpur.
Oui. Et donc depuis le meurtre de Kim Jong-nam, le demi-frère en exil du dirigeant nord-coréen à l'aéroport de Kuala Lumpur, le 13 février exactement, la Malaisie a expulsé l'ambassadeur coréen alors que la Corée de son côté a interdit aux ressortissants malaisiens de quitter son territoire. Juan, en temps normal, lorsqu'un pays est en froid avec un autre, c'est l'expulsion de ses diplomates ou de ses ressortissants qui est courante, alors que dans ce cas précis, la Corée du Nord semble plutôt les séquestrer. Je voulais savoir comment peut-on expliquer ce choix diplomatique.
Alors c'est vrai que les ressortissants malaisiens vivant en Corée du Nord sont temporairement empêchés de quitter le pays. Alors pour être très précis, Kasumna, la Malaisie a aussitôt réagi en adoptant la même mesure pour les ressortissants nord-coréens. Autrement dit, à l'heure actuelle, les ressortissants de ces deux pays sont pris en otage à cause de cette brouille diplomatique. Barthélémy Courmont est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'Université catholique de Lille, rédacteur en chef de la revue Monde chinois, Nouvelle Asie. Comment expliquer cette prise d'otage de la population ?
Alors déjà, ce qu'il convient de rappeler, c'est que les deux pays ont des relations diplomatiques. La Corée du Nord est un pays très isolé et n'entretient pas, par exemple, de relations diplomatiques avec les États-Unis ou la France. La Malaisie a une ambassade et il y a une ambassade nord-coréenne en Malaisie. Et par ailleurs, pour ajouter à cela, il y a un système d'exemption de visa pour les ressortissants des deux pays. Et donc on se retrouve dans une situation qui, avant cette crise profonde, montre plutôt des relations cordiales, voire très bonnes, entre les deux pays. Et on assiste effectivement à un blocage dont on connaît l'origine, qui a été rappelé, à savoir l'assassinat dans l'aéroport de Kuala Lumpur du demi-frère de Kim Jong-un. Et l'origine, en fait, de cette crise diplomatique vient du fait que la Corée du Nord a demandé à envoyer une équipe d'enquête en Malaisie, ce que le gouvernement malaisien a refusé, et la crise vient finalement de cette situation, refus du rapport d'autopsie du côté nord-coréen, et blocage donc diplomatique avec prise en otage, vous l'avez noté, des ressortissants des deux pays de part et d'autre.
Oui, ça concernerait tout de même près d'un millier de personnes en Malaisie, donc un millier de nord-coréens qui vivent en Malaisie, actuellement bloqués, et 9 à 10 Malaisiens bloqués en Corée du Nord.
Voilà, du côté nord-coréen, en fait, les ressortissants malaisiens sont essentiellement le personnel de l'ambassade. Donc c'est un nombre de personnes très limité. En revanche, il y a effectivement du côté malaisien un nombre beaucoup plus important, qui n'est pas d'ailleurs évalué de manière très précise, mais un nombre beaucoup plus important de nord-coréens. Et cela concerne par conséquent un nombre effectivement plus que conséquent de personnes. Alors le problème, c'est que il y a, ajouté à cela, des échéances proches qui pouvaient au contraire inviter à la réconciliation. Il y a un match de football qui doit se dérouler à Pyongyang dans 2 semaines entre la Malaisie et la Corée du Nord. Ce match a été reporté, voire annulé. Et donc on est vraiment dans une crise qui est, j'ai envie de dire, tous azimuts.
Ouais. Donc on va suivre évidemment avec énormément d'intérêt dans les prochains jours et les prochaines semaines l'évolution de cette escalade entre la Malaisie et la Corée du Nord. Merci beaucoup Barthélémy Courmont d'avoir été avec nous ce matin. D'autres questions à la rédaction évidemment demain, et d'ici là vous continuez à nous appeler, le standard reste ouvert. Dans un instant, un point complet sur l'actualité et on revient tout de suite après.